Vous me direz que le je ne sais quoi, il est aussi chez Saint-Jean de la Croix, qui n'est nullement un rationaliste. Mais on le retrouve également chez Balthazar Gracian, que je cite souvent, trop souvent, paraît-il. On va dire que je suis affilié à la Compagnie de Jésus, ce qui n'est pas le cas. Et pourtant, Balthazar Gracian, père jésuite, c'est lui qui parle surtout du je ne sais quoi, encore qu'il ne lui donne pas toujours ce nom. Il l'appelle El Despero. Je parle très mal l'espagnol, mais je sais que le mot veut dire quelque chose comme la désinvolture, la grâce, l'aisance, avec une espèce de laisser-aller. Et ce qu'au XVIIe siècle, on traduisait très joliment par la désinvolte. La désinvolte, qui est aussi bien celle d'un cavalier sur son cheval, d'un héros à la guerre, par exemple, c'est la qualité de Louis XIV. Et il paraît de Philippe II, c'est guère pas visible pour moi, mais enfin, les Espagnols savent ce qu'ils disent. En tout cas, Louis XIV, à cheval, volant de victoire en victoire, est doué de ce, je ne sais quoi, El Despero.
Une vie, une œuvre, Balthazar Gracian, 1601-1658. Une émission de Francesca Isidori et François Connac. Al lector.
Au lecteur.
Que singular te deseo.
Que je te désire singulier.
Emprendo formar con un libro enano.
J'entreprends de former
un baron gigante.
Avec un livre nain un homme géant.
Y con breves periodos inmortales hechos.
Avec de brèves périodes d'effets immortels.
Baron maximo. Esto es milagro en perfección y.
Et en tirer un homme supérieur, c'est-à-dire un miracle de perfection, un roi, sinon par nature, par ses qualités, ce qui est un avantage.
Aquí tendrás una, no política ni aun económica, sino una razón de estado de ti mismo.
Tu trouveras ici non un traité de politique ni d'économie,
una brújula de
mais une raison d'état de toi-même. Une boussole pour naviguer vers l'excellence, un art d'être éminent avec à peine quelques règles de sagesse. J'écris bref parce que tu en sais long. Court car je suis limité. Je ne veux pas t'arrêter davantage pour que tu ailles plus loin.
Je pense que le côté un peu confidentiel de la réputation de Gracian tient au caractère marginal de la culture espagnole dans la culture européenne. Pour les Espagnols et même pour les Latino-Américains, Gracian est un classique qu'on respecte comme tous les classiques et qu'on visite de temps en temps avec plus ou moins de... Enfin, parfois par obligation, mais parfois aussi par goût. Sinon, je crois que Gracian mérite d'être lu au moins autant que les grands auteurs du XVIIe français. On pourrait le comparer à un auteur comme Pascal, par exemple, qui est extrêmement différent.
Mercedes Blanco.
Mais le degré de singularité, le degré de force de ce qu'il a à dire et d'intensité de l'écriture est comparable. C'est quelqu'un qui, à travers presque tous ses écrits, essaye de définir un idéal humain. Comme le fait par exemple Castiglione dans Le Courtisan, sauf que l'idéal humain de Castiglione se réfère à une catégorie bien précise de personnes. Il s'adresse à des aristocrates et il s'adresse à des gens qui vont faire fortune à la cour, qui vont faire carrière à la cour ou qui vont être présents à la cour. Gracian, non. La position de Gracian est beaucoup plus ouverte. C'est-à-dire cet idéal est universel. Parce que c'est une éthique qui n'est pas spéculative. Qui prétend avoir une incidence immédiate, qui prétend être lisible par tous, pratique, applicable.
Efficace.
Efficace, oui.
Lecteurs comme Schopenhauer, par exemple, considéraient que le Criticon, le roman de Gracian, était la plus grande et la plus belle allégorie qui ait jamais été écrite, l'un des meilleurs livres du monde, disait-il. Donc il y a Schopenhauer, les romantiques allemands qui s'intéressent aux mots d'esprit, il y a Nietzsche, auquel on l'a souvent rapproché, Freud, je ne sais pas s'il avait lu Gracian.
J'ai la faiblesse de croire qu'il a au moins connu à travers Nietzsche et surtout à travers Schopenhauer qui a traduit quand même l'oracle manuel parce que l'oracle manuel a eu un succès considérable en Europe. Il a été d'abord traduit en italien. Amelot de la Houssaye a fait une traduction qui a été archi célèbre dont sous le titre, voilà, réducteur l'homme de cour. Donc voilà, c'est la vision française, c'est Versailles. Alors que là, l'oracle Manuel s'adresse finalement à l'homme tout court qui veut réussir et qui a été dans l'homme de cour. Même les traductions italiennes préexistantes, Oracle Manuel, ont été après abandonnées. On a traduit du français, mais c'est la grande époque de la France. La France donc qui a réussi ce pari de universaliser sa culture, du moins au sens où on entend universel à l'époque, l'Europe. Donc Gracian, à travers Amelot de la Houssaye, est traduit en hongrois, en suédois, en allemand, toutes les langues d'Europe. En russe. Mais Schopenhauer n'est pas satisfait. Il a appris, il adore l'Espagne, il a étudié l'espagnol, il adore Calderón, qui cite sans arrêt, et Gracian, et il fait une traduction de l'oracle au manuel en essayant de restituer, mais il est vrai que l'allemand, avec ce côté aussi musical, rythmique, condensé, peut être peut-être plus proche que ce qu'était Amelot, qui est de son temps. Il purge Gracian, et donc les autres aussi, les autres traducteurs, Silhouette, Courbeville, hein, et ils augmentent, hein, donc ils augmentent énormément, puisque ce sont des gloses. Schopenhauer essaie de revenir à Gracian, et sa traduction n'a jamais quitté en Allemagne les librairies. Non, Nietzsche le connaît, Nietzsche cite Gracian, et puis il y a beaucoup de ressemblances, d'affinités avec Gracian, la formule frappée, l'aphorisme, très brillant, qui appelle le trait d'esprit, puisque comme plus on condense, plus c'est frappant, c'est sûr qu'il y a quelque chose de catégorique dans la formule, qui fait que finalement c'est une affirmation qui se passe d'argumentation. C'est un côté géométrique d'une forme, un paralogisme aussi qui séduit, parce que il y a l'assévération et un aphorisme peut démentir un autre. Mais il n'y a pas ça exclut, évidemment, la nuance là-dedans. Et pourquoi Freud n'aurait-il pas lu ou connu Gracian? Pas arrêt figure de l'esprit, ça je ne pense pas, puisque ça n'avait pas été traduit. J'en avais fait la première traduction en 83 au Seuil mondial. Et parce que tous ces mots d'esprit et tous ces poèmes cités, ça semblait intraduisible. Je ne pense pas, mais à travers cela, il y a un héritage certain en Allemagne, bien sûr.
Et puis il y a Lacan.
Oui, Lacan, mais là, c'est quand même assez troublant. Lacan a des formulations, on trouve ça gongorine et gracianesque, c'est certain. Il y a quelque chose de... Et il le citait beaucoup à travers Amelot de la Houssaye, comme Yankelevitch.
Gracian appartient à un double registre, quoi. Un registre d'une part littéraire, politique, parfois rhétorique.
Alonso Tordesillas.
Et il n'a pas été toujours réhabilité comme philosophe, quoique bien sûr Schopenhauer le traduit, quoique La Rochefoucauld l'utilise, quoique Kant le connaissait dans sa morale, et qu'il hérite bien sûr d'une pensée qui est une pensée à la fois antérieure et médiévale, proche aussi par Machiavel, proche par Castiglioni, mais plus lointaine par Aristote et surtout par les sophistes qui sont des maîtres de l'apparence et de l'occasion, de notions ou de concepts que Gracian utilise pleinement à titre, à mon sens, philosophique. Donc Gracian est effectivement un philosophe à part entière, et un philosophe qui prend part à un débat qui est le débat de l'opposition, disons grosso modo, de l'être et de l'apparence.
Et c'est par les sophistes que vous l'avez rencontré ?
J'ai rencontré Gracian à travers les concepts qu'il utilise d'apparence et d'occasion. Les sophistes sont traditionnellement considérés comme des adversaires de la philosophie platonicienne, ou Platon les considère en tout cas comme ses adversaires, et il les considère comme ses adversaires en tant qu'ils défendent la position des apparences contre la position de l'être. Et ça, c'est un point qui est fondamental chez Gracian. L'apparence, pour lui, est directement reliée au thème sophistique du paraître. Et de la même manière que les sophistes considèrent que l'être s'épuise dans l'éclat de son paraître, de la même manière, Gracian vante les qualités qui sont celles de l'apparence contre un être substance ou quelque chose comme ça.
Et puis, il y a cette utilisation aussi du langage qui rapproche sans doute, Gratien des sophistes.
Alors là, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce deuxième point, puisque Gratien dit que tout se vend avec de l'air. Tout est de l'air et que les sophistes étaient déjà, à l'époque où ils enseignaient, considérés comme des anglotogastres mercenaires, des anglotogastres, c'est-à-dire des gens qui nourrissaient leur estomac avec leur bouche, avec le vin qu'ils faisaient, flatus vocis.
Mais alors, est-ce que cette position de Gratien était une position orthodoxe? Les sophistes ont toujours eu une très mauvaise réputation. Alors, est-ce qu'un jésuite qui sans se réclamer peut-être ouvertement, mais qui utilisait les mêmes concepts et les mêmes armes, peut-être que les sophistes, est-ce qu'il était bien vu?
Il y a deux traditions, comme vous le soulignez fortement. Une tradition plus hégémonique, qui est celle qui va de Platon à Descartes, disons, et une tradition mineure, comme on dit aujourd'hui, qui passe par les sophistes, par une partie d'Aristote, bien qu'Aristote soit effectivement un grand membre de la philosophie, et un certain nombre d'auteurs qui sont à marge de la grande tradition que nous connaissons. Et Gratien, comme vous l'insinuiez, n'a pas été très bien vu, même par ses supérieurs de la Société de Jésus. Il appartient donc à une tradition qui est une tradition latérale, d'une certaine manière, mais qui a fait florès, puisque tous les moralistes français utilisent Gratien. Et bien plus tard, bien sûr, tout Nietzsche, Schopenhauer et même Kant, comme je le disais tout à l'heure, sont des auteurs qui vont se servir de cette tradition latérale pour construire des théories qui, par ailleurs, ont eu la reconnaissance que nous connaissons.
Un lion les voit tous, et qui voit une brebis, toutes. Mais qui a vu un homme n'en a vu qu'un, et encore, mal connu. Tous les tigres sont cruels, toutes les colombes candides, mais chaque homme est, par nature, différent. Les aigles généreux engendrent toujours des aigles généreux, mais les grands hommes sont loin de toujours engendrer des fils qui le soient, tout comme les petits n'en font pas forcément de petits. Chaque homme a son goût et son dégoût, car l'on ne vit pas d'un seul avis ni d'un seul visage. Il y a d'horribles monstres, diables ou chimères, caribes ou scylla, dans les golfes des grandes villes. Savants sans œuvre, vieillards sans prudence, jeunes gens sans frein, femmes sans vergogne, riches sans charité, pauvres sans humilité, nobles sans noblesse, peuple sans loi, des mérites sans récompense, des hommes sans humanité, des personnes sans substance.
Cette vie, pratiquement, semble, non pas dans sa vie elle-même, mais du moins dans la chronologie, exemplaire, hélas, d'une époque absolument terrible. Et l'histoire, encore une fois, bien sûr, l'histoire ne se répète pas, c'est la tragédie devient la comédie, comme aurait dit Napoléon, mais tout de même, de 1601 à 1658, c'est l'Espagne à l'apogée. Pratiquement, au début du siècle, l'Espagne est intacte, c'est le plus grand empire que l'histoire ait connu, le soleil ne se couche pas sur cet empire, etc. Et 1658, c'est pratiquement l'année de mort de Gratien, il ne voit heureusement pas le traité des Pyrénées de 1659, où la lutte de plus d'un siècle entre la maison d'Autriche espagnole et la France se termine par l'éclipse politique européenne de l'Espagne au profit de la France. Mais il traverse cela comme quelqu'un d'extrêmement conscient. C'est un penseur politique, très attaché à l'Espagne, bien sûr, à la grandeur de l'Espagne, conscient que la grandeur des empires va de pair avec la grandeur des arts, des sciences, de la politique, etc. Mais par ailleurs, avec une lucidité terrible, dramatique, puisque il sent, et on le voit dans son œuvre, inexorablement, l'Espagne plongée dans cette décadence. Et on peut dire qu'une partie de ses œuvres, c'est pratiquement une tentative désespérée d'offrir des modèles abstraits de grands hommes, de donner des recettes de succès. Tous ces livres, tous ces traités sont des techniques du succès. Il y a une espèce d'optimisme très jésuitique de la volonté. On peut, si l'on veut, et offrir, disons, les armes aux grands hommes à venir de l'Espagne, comparé aux grands hommes, de, malheureusement, qui s'éloignent dans le passé, ou qui sont pratiquement enfermés dans les musées, les tableaux des musées, des grands hommes de l'histoire d'Espagne qui en regorgent. Et face à l'éclipse dramatique de grands personnages, il n'y a plus pour lui pratiquement, si on lit entre les lignes, de grands politiques à son époque. Et l'Espagne a besoin de grands politiques, c'est une urgence, et malheureusement, à l'urgence des temps, ne répond pas l'urgence humaine de figures assez grandes pour pouvoir incarner une résurrection d'un pays dont Gracián et d'autres, mais lui, c'est très sensible dans son œuvre, sans l'inéluctable décadence.
Ce que Gracián retient de sa formation de jésuite, c'est d'une part la puissance, le pouvoir du verbe, de la parole, le pragmatisme et aussi la faculté d'adaptation. Puisque même si Gracián n'est pas parti d'un des pays lointains et donc n'a pas été obligé d'apprendre la langue des indigènes, de s'adapter, etc., mais la faculté d'adaptation est au centre de ses traités.
Il est essentiel, puisqu'il fait des prédications aussi dans les campagnes aragonaises. Il est prédicateur dans les églises. On ne sait pas trop, on a, semble-t-il, perdu ses sermons, mais lui-même, dans ses lettres, hein, parce qu'il a vraiment l'art de l'autopromotion, raconte à ses amis aragonais, il est à Madrid, il va à Pamplune, et simplement, sa carrière se déroule confiné dans son Aragon. Mais c'est un grand prédicateur, il dit que les gens étaient dehors, tempêtant à la porte des églises parce qu'ils ne pouvaient entrer, écouter ses prêches. Bon, il le dit, il y a d'autres lettres aussi, d'autres qui confirment qu'il avait du succès. Donc, il faut imaginer un type de parole, on n'avait pas le micro, donc dans les grandes églises baroques où il n'y a qu'une seule nef, il y a le geste aussi, la gestique qui contribue à prolonger, à souligner une parole qu'on ne pouvait pas percevoir comme aujourd'hui avec l'artifice confidentiel pratiquement du micro.
Dans sa pensée de moraliste, il y a une dimension très importante qui est l'idée que celui qui fonde ou qui innove a toujours un immense avantage sur tout ce qui vient après.
Mercedes Blanco.
Que l'inventeur, disons, s'empare d'un champ et que les autres ne sont que des épigones. Mmh. Donc, quoi qu'on fasse d'intelligent et d'intéressant, si on ne crée pas son propre champ, on est toujours en mauvaise position pour se distinguer. Parce qu'il y a quand même cet impératif de la distinction qui est très important dans son idéal. Donc, il dit à plusieurs reprises, préférer être nouveau en quelque chose, inventer quelque chose, même si ça paraît moins prometteur que de continuer ce qui existe déjà, voire même dans l'extravagance, hein, tenter l'extravagance plutôt que de continuer les chemins tout tracés.
C'est la primauté de la nouveauté, de même que lorsqu'on atteint à ce mot d'esprit ou à cette pointe, on produit du nouveau.
Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression que cela était déjà là, mais on ne l'avait pas vu. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Bon, il ne s'appuie sur aucune autorité, ce qui est déjà extrêmement intéressant et nouveau. Hein. Ce traité, évidemment, on a essayé de l'inscrire, c'est tout naturel, dans la richissime tradition de qui vient depuis les Grecs jusqu'au... et qui, à la Renaissance, est si vivante des traités de poétique et de rhétorique. Mais ces traités de poétique et de rhétorique, bien sûr, suscitent les uns les autres. Il y a des autorités, Aristote, Cicéron et d'autres. Gratien n'invoque jamais d'autorité, dans ce traité ni ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment aussi quelque chose de très neuf.
Principe premier. Voici la première règle dans l'art des entendus. Mesurer le terrain avec son artifice. Grande ruse que de s'offrir à la connaissance mais non à la compréhension. Que de nourrir l'attente sans la rassasier jamais complètement. Que le beaucoup promette davantage et que la plus belle action en laisse toujours espérer de plus grande. Que l'homme averti ne permette à personne de lui sonder le fond s'il veut être respecté de tous. Un fleuve est formidable tant qu'on ne lui a pas trouvé de gué, et l'on respecte un homme tant qu'on n'a pas trouvé de limite à sa capacité, car une profondeur ignorée, mais présumée, conserve toujours, par la crainte, le crédit.
Dès cette note qui est très courte, il dit « Je veux former avec le livre nain un homme géant ». Voilà, c'est peut-être pour l'Espagne, dont l'Espagne a besoin. 137, c'est déjà les signes de l'édifice qui commence à s'écrouler. Voilà, se fissurer, exactement. Gratien dit tout simplement, je te donne, tu trouveras ici une raison d'état de toi-même, au lecteur. C'est quand même, là, l'aveu est on ne peut plus flagrant. Il y a une grande polémique anti-machiavélienne chez les jésuites, enfin, tous les auteurs chrétiens qui ont écrit le prince chrétien contre le prince Machiavel qui est réputé athée. Mais le livre de Machiavel, quand même, qui date du début du XVIe siècle, circulait, même s'il a été publié un peu plus tard, et il n'a été mis à l'index qu'à la fin du XVIe siècle. Donc, il a beaucoup circulé, il est très assimilé. Et les jésuites sentent justement cette face au prince protestant auquel on assimile évidemment l'athéisme, le machiavélisme, etc. C'est toujours l'autre qui est le Machiavel, le machiavélique, bien sûr. Et il y a beaucoup, il y a tout, non seulement en Espagne, mais en Italie, partout, dans les pays catholiques, en France, dont en Espagne énormément, de livres anti-machiavéliens. Comment le prince chrétien doit réagir à un prince machiavélien qui, par définition, est sans scrupule, etc. Le problème, c'est que face aux situations que requiert le gouvernement, que peut-on faire? C'est qu'un prince chrétien peut-il mentir? Dans l'absolu, non. Le mensonge est un péché mortel. Bien. Mais s'il se trouve face à un prince machiavélien,
il a une bonne raison de mentir.
Il a donc voilà. Vous nous avez dit, je crois, le mot la bonne raison. Ce qu'on distingue entre la mauvaise raison d'État, celle de Machiavel bien sûr, et la bonne raison d'État. Donc il a une bonne raison de mentir, et là il sera absous.
Alors, Benito Pellegrini, on poursuit la chronologie des écrits de Gratian. Trois ans après, en 1640, il publie « El Politico Don Fernando », c'est Ferdinand le catholique, qui avait déjà été avec Cesare Borgia le modèle, un des modèles de Machiavel. Et d'ailleurs, encore une fois, on retrouve sous la plume de Gratian quelque chose qui sonne à nos oreilles comme une reprise de Machiavel. La bonne fin auréole le tout, même si elle est démentie par les faux pas des moyens.
Ça, c'est ce qu'il dira dans l'oracle manuel. Mais dans Ferdinand le catholique, c'est une sorte de longue dissertation d'un seul jet sur Ferdinand le catholique, qui a été roi d'Aragon, et qui a épousé Isabelle. Et Ferdinand et Isabelle ont eu le titre de catholique justement par le pape concitoyen de Ferdinand, Borgia, qui était de Aragonais, contre le premier roi des Amériques, dont ils ont reçu le titre de roi catholique. Voilà. Et c'est sûr que, comme Machiavel s'en nommait Ferdinand, il était encore en vie lorsqu'il a créé le prince. Hein. Le prince a été créé en 1516, mais il n'a pas été publié immédiatement. Et Ferdinand le catholique, roi de Naples, de Sicile, était redoutable. Mais il dit que, évidemment, mais l'allusion transparente, que le prince, la politique n'a rien à voir avec la morale. Il n'est pas ni moral ni immoral, c'est évidemment l'art, la science politique qu'instaure de façon génialement moderne Machiavel, c'est la conquête du pouvoir, sa conservation, son augmentation. Et là, dans le politique, il donne un exemple concret où il voit en Ferdinand catholique l'incarnation de la bonne raison d'État, parce que, sans dire que parce qu'il est catholique, donc tout ce qu'il a fait est au profit de la religion, pour la plus grande gloire de Dieu, selon la devise des jésuites. Parce que c'est celui qui a tout réussi, et qui a ajouté couronne sur couronne, et donc, dit Gratian, tranquillement, c'est la vraie raison d'État, il a joint la terre et le ciel.
Deux choses font un style parfait, la matière des mots et la forme des pensées, car de ces deux éminences jointes naît la perfection. Certains se contentent de l'âme seule de l'acuité, sans veiller à la beauté de l'expression, considérant au contraire comme une félicité la facilité de l'écriture, même en poésie. Les mots sont ce que les feuilles à l'arbre, et les concepts, les fruits.
Ce n'est pas paradoxe, mais ignorance, que de condamner tout concept.
Ce n'est pas être un Aristarque, mais un monstre, que de railler l'acuité. Antipode de l'esprit dont l'entendement devrait être comme le désert du discours. Les concepts sont la vie du style, l'esprit de la parole, et sa perfection est proportionnelle à sa finesse. Mais lorsqu'il y a rencontre entre l'élévation du style et la hauteur du concept,
cela fait une œuvre achevée.
Il faut faire en sorte que les propositions l'embellissent, que les remarques l'avivent, que les mystères lui donnent plénitude, les pondérations
profondeur,
les exagérations
relief,
les allusions
de l'ombre, les énigmes
du piquant, les transmutations
de la subtilité,
les ironies
du sel,
les satires
du fiel,
les paronomages
de la grâce,
les sentences
de
la gravité, que les analogies le fécondent, que les parités le rehaussent.
Mais tout avec un grain d'à-propos, car la sagesse doit tout assaisonner.
La gudeza, disons, c'est la faculté qui permet, par toute une série d'opérations, essentiellement sur le langage, de produire du nouveau. C'est, en fait, là où le discours est fécond, il est agudo. Il y a gudeza partout où il y a quelque chose de remarquable à appréhender, partout où il y a relief. C'est le contraire de la platitude, si vous voulez.
Gratian dit que les écrits dépourvus de gudeza, ce sont comme des cadavres qui gisent dans des sépulcres de poussière.
Oui. Au fond, la gudeza y arte ingenio, c'est une théorie des effets de sens. Il prétend savoir comment, par quelles opérations, par quels dispositifs, on obtient des effets de sens.
Comment la gudeza peut agir?
C'est un fait, si vous voulez, expérimental, empirique, hein, intuitif. Tout le monde en a l'intuition. Lorsqu'un dit a du poids, il a de la gudeza. Au fond, c'est la même chose. C'est une parole pleine, en quelque sorte. On a tous l'expérience des effets de la parole, lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle a du relief, lorsqu'elle a de la force. Le problème de comment la chose serait possible serait presque un problème métaphysique, que Gratian, à vrai dire, ne pose pas. On ne donne pas les moyens de résoudre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt le comment.
Le plus universel des chiffres, et qui condense la moitié du monde, c'est le...
etc.
Vous avez bien vu deux personnes qui parlent quand passe une troisième.
Qui est-ce?
Qui?
Mais un tel?
Mais encore. Oh, pour l'amour de Dieu, mais vous savez bien, celui qui... etc.
Ah oui.
Ah oui, mais oui, oui, j'ai compris.
J'ai compris. Regardez ce monstre marié à cet ange. Penseriez-vous que ce soit son mari?
Et qui d'autre peut-il être?
Vous êtes plaisant. Apprenez qu'il ne l'est point.
Que lui est-il donc?
On ne peut le dire. C'est son etc.
Oh, l'admirable chiffre. Qui lui dit?
Cette autre qui se fait appeler tante ne l'est pas.
Qu'est-elle donc?
Une etc.
L'autre qui se fait passer pour pucelle.
Le cousin de la cousine.
L'ami du mari. Eh bien?
Eh bien, ils ne le sont d'aucune façon. Ils ne sont que des etc. Le neveu de l'oncle, qui n'est pas oncle, au masculin, veux-je dire, qui n'est pas le neveu de son frère.
C'est un etc.
Il y a mille choses de la sorte que l'on ne peut expliquer autrement.
Retenez bien ceci. Je vous promets que le monde, presque en son entier, est un etc.
C'est un livre où il intègre des exemples pour de mots d'esprit, tout ce que vous avez détaillé, les calembours, les ripostes vives, les pointes, mais enfin les pointes c'est très réducteur.
Benito Pellegrini.
Ce qu'il appelle l'acuité, l'agudesse, et que j'ai appelé figure parce que c'est il y a des tas de visages de l'esprit, et même l'esprit, quand nous disons mots d'esprit, c'est quelqu'un, il faut s'interroger. L'esprit, comment se traduit l'esprit de quelqu'un qui est supposé intérieur dans notre binarité occidentale, si ce n'est pas à travers le mot. Donc le signifiant signifie. Donc c'est une théorie finalement du signifiant, mais qui ne renonce jamais évidemment à la puissance du signifié, sinon ce serait la simple pointe banale, la pointe assassine, voilà, comme dirait Boileau. Et c'est une théorie de la parole. Cette théorie de l'écriture, cette théorie de la construction aussi du livre, c'est une poétique en fait, qui fait que Pointe ne peut pas rendre toute la richesse que j'essayais de traduire par figure de l'esprit. Parce que l'esprit a des visages, s'incarne aussi dans des personnes spirituelles, célèbres, etc. Et c'est un répertoire de l'Antiquité à son temps le plus proche. Il a deux pôles d'auteurs spirituels au sens d'esprit profane, bien sûr, c'est Martial pour les anciens latins, qui était pratiquement de la ville où il est né, Belmonte. Et souvent, il se prétend descendant, enfin pratiquement de Martial. Hein. Donc, il signe Gratian de Bilbilis, qui était le nom latin de Moromain de Calatayud. Et pour les modernes, tout de même, c'était une grande audace, c'est Góngora, qui est l'auteur cryptique, merveilleux, de sensuel et spirituel, mais baroque, dirait-on aujourd'hui, mais qui était encore un auteur relativement polémique. Et à partir de là, il embrasse vraiment les pères de l'Église, etc. Et je dis beaucoup etc., parce qu'on n'en finirait pas de parler de cet auteur. Il le dit, des exemples de mots d'esprit, de l'Église jusqu'aux auteurs les plus profanes, mais de l'Antiquité à l'époque la plus récente, et français, italien, portugais, etc. Et c'est encore un livre dont qui se veut universel, une espèce de volonté totalisante de cerner cet incernable esprit. Et après, et donner une technique même pour le mot d'esprit, tout en reconnaissant après que finalement, de rien ne sert un art de l'esprit. Pour qu'il y a de l'esprit sans art, je résume. De même, dans l'oracle manuel, qui est un art de plaire, je dirais que de rien ne sert un art de plaire à qui sait plaire sans art aussi. Donc, c'est l'art, c'est la sacralisation de l'art, et puis montrer aussi la vanité de l'art face à des dons de la nature. Mais la nature peut toujours être aidée, polie, raffinée, pour la rendre plus efficiente.
Un des exemples qu'il cite est une épigramme assez étrange de Martial.
Mercedes Blanco.
Où, en deux vers seulement, il raconte le cas d'un enfant qui a été égorgé par de la glace. De la glace, enfin, probablement en pointe, hein, qui lui est tombée sur le cou et qui l'a égorgé. Donc, un vers rapporte cela et le second vers dit « Où pourra-t-on se sentir en sécurité si vous, eau, si vous, les eaux, vous égorger. En quoi consiste la pointe? Là, c'est d'essayer de trouver du sens dans quelque chose qui n'en a pas, justement. C'est l'insensé de l'accident. Le sens, là, est justement dans le non-sens. Le sens est dans le fait que l'eau, normalement, vous noie. Si elle vous tue, c'est en vous noyant. Donc, c'est le péril n'est jamais. Enfin, ce à quoi, disons, l'incident entend nous faire réfléchir, c'est au caractère totalement imprévisible du péril de mort. Donc, par ce jeu de l'absurde et du sens, de l'incident absurde et du sens qui est donné dans le paradoxe, il y a un effet pointu, un effet d'esprit.
Il est tué par la mort elle-même.
Il est tué par la mort elle-même, exactement. Un autre exemple de Martial, mais enfin, il y en a tellement. Castor, tu dis que ce n'est rien ce que tu me demandes. Eh bien, si tu ne me demandes rien, moi, je ne te refuse rien. C'est-à-dire, je ne te donne pas ce que tu demandes, mais précisément, puisque c'est rien, tu ne peux pas m'accuser. Donc, il y a une espèce de retournement. Là, on retourne comme un gant. L'argument du demandeur, du solliciteur, c'est peu de choses que ce que je te demande. Ce serait vraiment mesquin de ne pas me l'accorder, ce n'est rien. Eh bien, puisque ce n'est rien, moi je te refuse rien. Même si ce n'est pas toujours apparent, l'art de l'esprit enseigne, c'est à quel point le langage est plastique. À quel point on croit savoir ce qu'on dit et en fait on ne le sait pas. À quel point tout ce qui est impliqué dans ce qu'on dit ou qui peut y être impliqué nous échappe. Et dans la mesure où ce que nous disons nous échappe, tout ce qui nous échappe dans ce que nous disons peut être joué au profit de l'autre. On le laisse voir, on peut le laisser voir à quelqu'un justement qui a une acuité de regard particulière et qui peut le tourner contre nous. Ou le tourner dans une direction inattendue.
Qu'est-ce qu'une diphtongue ? Un curieux mélange. Diphtongue, c'est un homme avec une voix de femme et une femme qui parle comme un homme. Diphtongue, c'est un mari qui fait des grâces et la femme qui fait des crasses en caleçon. Diphtongue, c'est un enfant de 60 ans et un va-nu-pied qui fait craquer la soie. Diphtongue, c'est un français matiné d'espagnol, le pire mélange de tous. Il y a des diphtongues de maître et de valet, diphtongues de soleil et de lune dans la variété et la beauté. Même si vous voyez des hommes avec la toison d'or, notez que ce ne sont que des moutons.
En 1642, l'art de l'esprit que Gratien va développer, augmenter 6 ans plus tard dans une deuxième version et qui cette fois-ci, donc en 1948, paraîtra sous le titre de art, enfin que vous traduisez art et figure de l'esprit. Mais alors entre ces deux versions de l'art de l'esprit, il y a deux livres, deux traités très importants. Il y a Il discreto, l'honnête homme. Et l'oracle manuel et art de la prudence. Alors, l'honnête homme, est-ce qu'on peut dire que c'est la version grand public, disons, entre guillemets, du héros?
1637, il y a cette espèce d'optimisme technique. On peut, si l'on veut, ce héros, c'est pratiquement le surhomme de Nietzsche, à la religion près, parce qu'évidemment, à la fin, il le couronne religieusement. Il ne pouvait pas faire autrement. Le politique, c'est l'illustration d'un Ferdinand le Catholique. Et au début, il dit, avec une belle audace, j'oppose un roi à tous les rois, passés et présents. C'est-à-dire qu'il met Ferdinand. Donc imaginez Philippe IV, dont Quevedo dira qu'il était grand comme un trou, d'autant plus grand qu'on lui apprend plus de terre. C'est le début de la décadence espagnole, donc on avance aussi dans la décadence, effectivement. Et dans le discreto que j'ai traduit par honnête homme, parce que Graciane ne se prive pas, il pille, mais il dépasse très largement l'honnête homme de Faré, qui est un livre qui était paru en France en 1630, l'honnête homme de Faré. Et c'est autre chose, beaucoup plus élaboré, beaucoup plus subtil. Et effectivement, en 1642, Arte d'ingenio, l'art de l'esprit, il s'inspire de Pellegrini, un auteur génois qui très élégamment, et on prétendra dans la préface de l'honnête homme de Graciane, son mécène qui l'édite, prétend qu'un génois a traduit le livre en italien, alors que c'est l'inverse, c'est Graciane qui a utilisé donc Pellegrini. Pellegrini, comme il utilise Faré en 1646. On prend son bien, comme dit Molière, où il le trouve, hein, Molière qui a aussi utilisé Graciane. Et dans ce livre, ce qui me semble important dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, ça n'est plus, non, c'est plus, s'adresse à l'homme de salon. C'est pas non plus le populaire, bien sûr, c'est l'homme de salon. Comme si en 1646, il y avait déjà, et il venait. Il venait de dédier, les dédicaces de Graciane sont toujours politiques et très importantes. Le héros était de la première édition au roi, Philippe IV. On a perdu l'édition, mais c'était au roi. Le politique, c'est au vice-roi d'Aragon, dont il est le confesseur. Et art de l'esprit, c'était au prince Baltasar Carlos, le petit prince que peint par Velázquez, mais qu'il a été adolescent, sur son petit poney. C'était l'espoir de l'Espagne. Et on pense que Graciane ambitionnait d'être son précepteur. Mais il est mort la même année. Et en 1646, il lui dédie aussi cet honnête homme, mais le prince meurt la même année. Non, s'envolent les espoirs de Graciane d'être précepteur ou conseiller du prince.
Tener que desear para no ser felizmente desdichado.
Ne pas épuiser le désir pour ne pas souffrir de son bonheur.
Respira el cuerpo y anhela el espíritu.
Le corps respire, si todo fuera l'esprit aspire.
Todo será desengaño y
à jouir de tout, on ne se réjouit de rien, on se lasse de tout.
Aún en el entendimiento,
au savoir même, il doit rester toujours quelque chose à apprendre pour nourrir sa curiosité.
La esperanza alienta. Los hartazgos de felicidad son mortales.
L'espoir fait vivre.
En el premiar,
indigestion de bien est mortelle. Habile récompense que ne comblait jamais entièrement l'attente.
Dicha desdichada, donde acaba el deseo, comienza el temor.
Tout est à craindre de qui n'a plus rien à désirer. Malheureux bonheur. Le souci commence où finit le désir.
La prudence, en fait, est aussi un autre concept, quoi, qui va de pair avec la question du temps ou du kairos, puisque...
Alonso Tordesillas.
Aristote appelait le kairos le bien selon la catégorie du temps, dans l'éthique à Nicomaque. Et donc le quand, il faut faire quelque chose. Et la prudence, c'est quoi c'est la phronesis des Grecs. C'est la sagesse qui peut prendre deux versants, une sagesse d'ordre théorique, ça sera la sapience, comme on traduira à cette époque-là, la sapientia, et une sagesse d'ordre pratique, tournée vers l'action, et cette sagesse pratique prendra le nom de phronesis chez les Grecs, de prudentia chez les Latins, de Klugheit chez les Allemands. Cette prudence, Gracian est en quelque sorte... un passeur, un médiateur entre cette prudence ancienne, cette phronesis ancienne, et ce qui va être thématisé ensuite par quelqu'un comme Kant, qui, lorsqu'il réfléchit sur une morale séparée de la prudence, réserve à cette prudence une caractéristique qu'il emprunte à Gratien à travers les leçons de son maître Wolf et qui lui-même les tenait de Thomasius, qui avait fait un commentaire de l'oracle manuel en 1687, je crois, dans son cours en Allemagne. Et cette Prudentia, en quelque sorte, va se manifester et va répondre à une exigence de réflexion sur la question du comment, toujours de la manière, du comment agir. Et ce comment agir va, dans cette réflexion, se tenir dans une tension entre l'habileté, qui relève de l'art, et une sorte de pragmatique, qui relève de la prudence. Pour ce qui concerne l'habileté, évidemment, c'est quelque chose qui concerne les moyens et non pas les fins. Le médecin qui guérit et l'empoisonneur qui tue s'intéresse aux moyens, et en quelque sorte de façon indifférente par rapport aux fins visées, alors que la prudence, elle, va rendre adéquat le choix des moyens par rapport à une conduite qui devrait nous conduire vers le bonheur, qui est une fin clairement distinguée. Et du coup, la prudence apparaît comme non pas une science, non pas une sagesse au sens propre, mais une disposition, une manière d'être, une disposition qui va rechercher des moyens, mais aussi des fins, qui est complètement différente de la sagesse parce que la sagesse est à elle-même sa propre fin, alors que la prudence va s'ordonner au bien général. Et la prudence, je crois que c'est Aristote qui le définit comme ça dans la Grande Morale, la prudence c'est tout ce qui est utile à l'homme. Et c'est cette utilité à l'homme qui fait que la prudence peut apparaître comme une vertu. Mais une vertu qui ne se définit pas de façon totalement théorique, puisque déjà chez Aristote, quand on recherche ce qu'est la prudence, il faut en fait aller voir ce que fait le prudent. Et donc on voit bien que dans les livres de Gratien, le héros, le discret, etc., la question n'est pas de définir le concept de prudence en tant que concept, mais bien ce que fait le prudent, le phronimos, l'homme qui agit. Et que fait le prudent ? Il discerne ce qui est bien pour bien vivre. C'est donc la caractéristique du prudent, c'est son discernement. Et ce n'est pas, me semble-t-il, un hasard si un des livres de Gratien s'appelle le discret. Et parce que discret, ce n'est pas à proprement parler autre chose que prudent. Ce n'est pas autre chose que prudent parce que ça vient de discretus, hein, qui est le participe passé adjectivé de discernere, et de discerner, c'est donc l'homme de discernement. Et le prudent, c'est celui qui sait discerner, pas tellement le bien du mal, mais les moyens de saisir la bonne occasion, comme le joueur qui joue aux cartes a les cartes qui lui sont données, mais il sait discerner quelle mauvaise carte il faut écarter et quelle bonne carte il faut jouer au moment où il faut la jouer, au moment opportun. Et cette idée de discrétion qui est en fait reliée de très près à la question du temps opportun, puisque même dans son antonyme, l'indiscrétion, c'est ce qui est inopportun. Quelqu'un d'indiscret, c'est quelqu'un qui révèle ce qui n'a pas à être révélé. Et on peut se souvenir que Gratien a toute une théorie sur la dissimulation, hein, sur le secret. Et le discret, c'est celui qui a de la retenue. Donc il y a toujours ces deux versants du temps, de la manière et de cette prudence qui est une saisie de l'occasion.
Avec le goût du nectar sur les lèvres.
La considération se mesure au désir. Dans la soif même, c'est un raffinement de bon goût que de la piquer, mais non de la rassasier.
Le bon est doublement bon s'il n'est pas trop long. La seconde fois accuse toujours une grande baisse.
Plaire à la satiété, toujours dangereux, car cela met au rabais la plus grande
éminence.
Singulière recette pour être goûtée. Saisir un appétit à vif qu'on a laissé sur sa faim. Si l'on doit piquer, que ce soit plutôt avant par l'impatience du désir qu'on donne, qu'ensuite par la satiété de la jouissance donnée.
Le plaisir soupiré est jouissance double.
Et alors, l'oracle manuel, ce titre est assez étonnant parce que il y a à la fois l'oracle, une parole presque révélée, et manuel, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans sa poche. Donc là aussi, il y a un souci de pragmatisme, d'être immédiatement efficace.
Oui, oui, tous les livres de Gracian, je crois que dans ce volume, on a reproduit exactement, en facsimilé, les livres de Gracian sont des livres qu'il désire dans un format qu'on appelle aujourd'hui de poche, c'est-à-dire manuel, qu'on puisse l'avoir dans la main et l'avoir, il lit, dans la poche. Donc, le héros, c'est tout petit. C'est un incèse, donc ça fait un peu plus gros qu'un paquet de cigarettes. Le politique, c'est pareil, et écrit très gros puisque c'est très court. L'honnête homme, pareil. Et l'oracle manuel, avoue d'emblée, oracle manuel et art de prudence tiré des aphorismes que l'on trouve, c'est dans le titre, fait une page, dans les œuvres de Lorenzo Gracian, puisque tous ces livres-là sont signés du nom de son frère, du prénom Lorenzo, et jamais Balthazar, puisque tous ces livres-là sont parus sans autorisation de la Compagnie de Jésus. Voilà, il n'a pas soumis à la censure. Ce qui ne vaut pas des amis, mais comme il est très célèbre, ça le protège sûrement. Et ce livre-là, c'est, un oracle manuel, où, justement, ce sont 300 aphorismes qui mettent en formule, disons, des situations concrètes de la vie. Savoir mentir, ne pas mentir, savoir demander, savoir refuser, donc qui est apparemment contradictoire, sont des cas, des situations dans lesquelles on se trouve et que l'on pourrait peut-être consulter, ce qui semble un peu difficile, mais quand même oraculaire, parce que c'est aussi un style très serré, très obscur, très difficile, bourré de jeux de mots, de rimes, de très rythmique, très musical. C'est là que l'on voit là, ce que vous avez souligné, ce n'est plus la morale du grand homme, du héros, puisqu'ici, finalement, c'est un art de la réussite. On pourrait dire d'obédience machiavélienne, quel que soit l'aphorisme justificatif à la fin, en trois mots, c'est assez machiavélique, vous en convenez, ou machiavélien, et ensuite, cela finit par un aphorisme sur lequel on bute, l'aphorisme 300, en un mot saint, qui est tout dire en un seul mot. On croit rêver, puisque le contenu ne semble pas correspondre au dernier aphorisme. Mais enfin, c'est un livre qui reproduit beaucoup de maximes, de formules frappées qui sont dans les précédents ouvrages, mais beaucoup d'autres qui sont inventées. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est la morale de la réussite qui était dans les autres traités, qui sont art pour devenir un grand homme, art pour être l'homme de salon, art de l'esprit, et ici, art de prudence.
Caractère ostentatoire n'est pas un caractère qui a à être déprécié, mais que, au contraire, la gloire de l'être se manifeste dans l'éclat de son paraître. On pourrait dire comme ceci. Ce qui fait que cette idée d'apparence devrait être plutôt versée du côté du paraître, avec une double position, une position en quelque sorte négative, ce serait un paraître qui se donnerait dans les illusions de l'apparence, et un paraître qui se donnerait dans l'éclat de son apparaître. Et donc, on aurait comme ça ces deux, cette double tradition, d'ailleurs signalée systématiquement par Gracian, entre une manière qui serait la manière d'être, qui donnerait l'éclat de cet être, et puis un côté maniéré, affêté, un maniérisme qui s'épuiserait, lui, vous parliez du langage tout à l'heure, dans les tropes, qui seraient des figures d'esprit ou des figures de style figées, par opposition à des figures d'intention qui seraient, elles, des manières, des, avec le verbe lui-même, trepein, des dispositions, des tournures d'esprit, et en quelque sorte des tours de main qui ne peuvent pas se figer dans des rigueurs strictes et formelles, mais requièrent une saisie de l'impondérable, de l'accidentel, du singulier, etc.
De la circonstance, de l'occasion.
De l'occasion.
Et ça aussi, ça nous fait penser aux sophistes.
Bien sûr.
À ce que les sophistes appelaient le kairos.
Bien sûr.
Il faudrait peut-être expliquer.
Oui, il y a un texte célèbre de l'oracle manuel qui est la Maxime 55 où il dit qu'il faut traverser la vaste carrière du temps pour arriver au centre qui est l'occasion. C'est ce que dit Gracian dans cet oracle manuel. Et l'occasion, le kairos, donc, est un thème central de la réflexion sur le temps, aussi bien chez les anciens que par la suite chez un certain nombre de modernes, dont Machiavel.
C'est Machiavel qui disait qu'il faut attraper la fortune par les cheveux.
Par les cheveux, exactement. Et donc, kairos, c'est donc un emblème, c'est l'enseigne du sculpteur Lysippe, qui représente un jeune homme qui est chauve par derrière et chevelu par devant. Il a donc une mèche de cheveux devant et il a le crâne rasé à l'arrière. Parce que, bien entendu, lorsque l'occasion est passée, on ne peut plus la saisir. Donc, il faut la saisir par les cheveux, sur cette touffe de cheveux qui est devant. C'est un éphèbe qui est un équilibre instable, qui est en train de courir, mais qui est à un moment d'équilibre, donc qui peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ce côté est aussi celui de la saisie du moment opportun, qui permet de basculer vers la guérison ou vers la mort, selon que l'on soit médecin ou empoisonneur, et qui relève effectivement d'une technique de la saisie de l'occasion, non pas de la provocation de l'occasion, mais de la saisie de ce moment qui va permettre de donner précisément sa perfection à l'action.
Quedó suspenso el bellísimo pájaro de Juno.
Le bel oiseau de Junon en resta interloqué.
Y cuando recordó de la turbación,
et quand il revint de son trouble ou de sa réflexion, il s'exclama
ainsi. Ô louange, tu ne nous viens jamais que des étrangers. Ô mépris, tu nous viens toujours de nos proches. Quoi? Alors que les yeux de tous s'attachent à ma beauté, laissant leur image imprimée sur mon plumage, est-il possible que je sois la proie des cancans, des pies et des corneilles? Vous condamnez en moi l'ostentation et non la beauté? Le ciel, en me faisant don de la première, m'a fait la faveur de la seconde, car l'une sans l'autre ne servirait à rien. Que serait la réalité sans l'apparence?
Le plus grand savoir, recommandent aujourd'hui les politiques, consiste à faire paraître. Savoir, et savoir le montrer, c'est savoir deux fois.
Si le soleil, en se levant, n'étalait avantageusement ses rayons éblouissants, si la rose, parmi les fleurs, restait toujours prisonnière de son bouton sans déployer la pourpre embaumée de sa roue, si le diamant, avec le secours de l'art, ne métamorphosait ses transparences, ses feux et ses reflets, à quoi servirait tant de lumière, de mérite et de beauté sans le rehaut de l'ostentation? Moi, yo soy el sol alado.
Je suis le soleil ailé.
Yo soy la rosa de plume.
Je suis la rose de plume.
Yo soy el
Je suis le joyau de la nature.
Y pues me dio el ciel
Et puisque le ciel m'a donné la perfection,
he de tener también la ostentación.
J'ai aussi le droit d'en faire montre.
Mercedes Blanc, vous parliez tout à l'heure du rôle qu'on doit tenir dans le monde, dans ce théâtre du monde si baroque, propre à la conception baroque. Et il y a encore un mot qui est très important chez Gracien, qui est celui de persona.
La personne est un homme en tant qu'artefact. C'est-à-dire, il y a l'homme tel que la nature nous le livre, l'animal humain, l'homme de la biologie, et il y a l'homme de la culture. La personne est l'homme de la culture. Ce qui ne veut pas dire un homme cultivé. C'est un homme qui est façonné par la culture qui l'englobe, mais ce n'est pas du tout passif comme phénomène. C'est-à-dire, la culture ne façonne pas un homme comme ça, comme un artiste façonnerait. Gracien croit qu'il y a une sorte de ressort, par là aussi les jésuites, qui est la volonté. Chacun de nous a cette espèce de ressort qui lui permet d'agir sur lui-même. Et c'est en agissant sur lui-même que d'homme, c'est-à-dire animal humain, donné, naturel, il devient un homme de la culture.
Une personne.
Il intègre la culture et il contribue à l'élaborer. À ce moment-là, lorsque l'homme devient une sorte de producteur culturel, il est personne, pour le dire dans des termes qui seraient les nôtres. Et bien sûr, dans le mot personne, il y a l'idée de masque, enfin étymologiquement, et qui reste présente, parce que quand on se façonne soi-même, il y a toujours un reste qui est l'homme naturel qui revient. Donc, on se façonne, mais on ne devient pas complètement un artefact. On est forcément dans une espèce de dialectique constante avec le résidu trop humain ou purement humain qui reste de nous et qu'il ne s'agit pas de détruire, qui est toujours là. D'où la distance entre la personne et l'homme qui la supporte. Un peu comme le masque, d'où l'idée de rôle. Il y a aussi, quand même, chez Gracien, avec toute sa culture chrétienne, un fond, de pessimisme chrétien, si on peut dire. La nature est entachée de péché. La nature humaine n'est pas bonne. Non seulement parce qu'elle est imparfaite, parce qu'il faut que la culture la perfectionne, mais aussi parce qu'elle est fondamentalement tordue. Elle a vraiment une tendance à se décomposer, à devenir monstrueuse. D'où cette espèce de distance qu'on a toujours par rapport à cette persona qui est à la fois un masque et un idéal. C'est pas un masque au sens du masque de l'hypocrite.
Oui, on a beaucoup de mal. Aujourd'hui, notre réaction immédiate devant cette idée de personne, donc de masque, de rôle, de simulation ou de dissimulation, est une réaction très moraliste, moralisante. Enfin, on appellerait ça l'hypocrisie, jouer un rôle.
Oui, bien sûr.
Ce n'est pas du tout dans ce sens-là.
Non, ce n'est pas dans ce sens-là, parce que le rôle est un idéal. Un peu comme l'idéal du moi. Et c'est pas un idéal qu'on veut faire à croire aux autres et dans lequel, auquel soi-même on n'adhère pas. On doit essayer de ressembler le plus possible à son rôle. Mais on doit savoir qu'on ne pourra jamais y ressembler complètement. C'est-à-dire, la personne doit être parfaite, l'homme ne peut pas être parfait. Il faut construire sa personne de manière aussi parfaite que possible.
Donc c'est une tension constante.
C'est une tension constante, oui.
Vous vous rappelez que Gracien est contemporain de Galilée.
Oui, et de Descartes, oui. Et en fait, Galilée, qu'est-ce qu'il fait? C'est mathématiser la physique. Enfin, il fait beaucoup de choses, mais pour résumer en un mot, c'est mathématiser la physique. C'est donc réécrire en un autre langage, réécrire les phénomènes en un langage. Or, le fait d'écrire des phénomènes, qui sont les phénomènes de la mécanique, dans un langage qui, a priori, n'était pas fait pour eux, qui est le langage des mathématiques, de l'algèbre. Parce que les mathématiques n'avaient pas été faites pour décrire les phénomènes du mouvement, les phénomènes mécaniques, les phénomènes de force, mais elles avaient été conçues par les Grecs pour décrire des phénomènes tout à fait statiques, stables. Donc, réécrire les choses dans un autre langage, eh bien, entraîne des conséquences fabuleuses.
Et puis, d'une certaine manière, aussi bien Galilée que Gratiane rompent avec le vraisemblable.
Oui, le vraisemblable, c'est ce qu'on croit savoir, déjà. Et alors que la Gudessa travaille justement dans ce qu'on ne sait pas qu'on sait, ou ce qu'on ne croit pas qu'on sait, et tous ces mouvements-là, et absolument pas dans ce qu'on croit savoir. En effet, la plupart des maximes de la nouvelle science sont tout à fait contraires à l'intuition. Ils sont peu vraisemblables. En partie, ils sont peu vraisemblables parce qu'ils le sont. C'est peu vraisemblable au fond que la Terre bouge puisque nous ne la voyons pas bouger. Enfin, bon, là, c'est pas. Il y a des choses évidemment plus radicales comme le fait qu'il puisse y avoir un mouvement perpétuel sans force qui vient s'y ajouter. On constate tout le temps dans la vie que lorsque on donne une certaine impulsion à un objet, on le met en mouvement, ce mouvement s'épuise au bout d'un moment. Il faut renouveler l'apport d'énergie. Donc, partir de l'idée que si on met un objet en mouvement et que rien ne vient freiner ou arrêter ce mouvement, aucun agent extérieur ne vient faire obstacle, le mouvement va s'éterniser, se perpétuer, est complètement invraisemblable. Et c'est néanmoins les maximes de Galilée, enfin des principes de la physique, de la nouvelle science.
Gratiane est un auteur à succès.
Benito Pellegrini.
Dans ses lettres, il se vante. C'est vraiment, voilà, tant d'exemplaires sont partis. Il gagne de l'argent des dédicaces en infraction grave avec le vœu de pauvreté des jésuites. Il le dit, voilà, un tel m'a donné de temps, etc., etc. Il est très fier de ses tirages. Et il est sans doute protégé par ses amis aragonais, son mécène, jusque-là. Et il est protégé par son succès. Sûrement, parce qu'il est Lorenzo, mais c'est transparent, tout le monde sait que c'est le père Balthazar.
Mais on le laisse faire ?
On le laisse faire, hein. Donc de 1637 à 1647, pendant 10 ans, il a écrit ce qu'il a voulu, avec succès, sans problème. On pense que des problèmes, il les avait, mais étant donné les protections, c'est son mécène, grand seigneur aragonais, Lastanos, qui a tout publié, les protections de ses dédicaces très, très politiques aussi, qui l'ont protégé. Et il a écrit, par prudence sans doute, hein, donc c'était transparent parce qu'il se vantait très fort lui-même, hein, sous le nom de Lorenzo, et sans autorisation de la compagnie. Mais avec le temps, évidemment, la situation politico-religieuse n'est plus la même. Mais tous ces livres-là, comme je disais aussi, je reviens pas en arrière, ont été immédiatement traduits, notamment le héros a été traduit en français, adapté comme on faisait à l'époque, hein, le héros François, etc., par Gervaise. On a utilisé ces livres et ces maximes, puisque Madame de Sablé en France, ce qui assez plaisant, puisque ce sont des jansénistes qui ont inventé le jeu salonnard des maximes, La Rochefoucauld fréquentant chez Madame de Sablé, Pascal, Méret, etc. Et à partir d'un jésuite, puisque Madame Sablé lisait l'espagnol, Rochefoucauld aussi, et Madame Sablé a traduit des maximes de Gracian, et puis c'était le jeu des maximes dans les salons. Et cet art, c'est un art de la réussite, sans scrupule. C'est un art, finalement, un art de plaire, parce que ce qui tout de même, au-delà des aspects qui peuvent paraître choquants, machiavéliques, de certains aphorismes, finalement, l'essentiel là-dedans, c'est la dissimulation, c'est la ruse. Mais la ruse, quand même, c'est la courtoisie de la violence. Si j'ai un pistolet, j'ai une arme devant vous, bah, vous n'avez pas vous ne pouvez pas discuter. C'est la force devient la raison, devient la raison. Donc, on a face au pouvoir, au pouvoir le plus puissant, face à l'arme, qu'est-ce que pouvez-vous avoir face au maître, indiscutable? Ben, un silence de crainte, de respect, d'acquiescement, ou alors des applaudissements, d'approbation, de bravo. Mais quand il y a la ruse, c'est-à-dire qu'on a mis tout de même l'épée au fourreau, et ça, c'est un héritage de tous ces politiques italiens, de ces petites principautés où tout était en général instable et dont il s'agissait de conserver le pouvoir, conserver son poste. Et donc, finalement, la ruse, qu'est-ce qu'on puisse penser dans ce contexte-là, c'est tout de même, c'est la paix de, peut-être du renard, mais ce n'est pas la violence du lion. Mmh.
La ruse, la dissimulation, et d'ailleurs, à peu près, dans les mêmes années, il y a en Italie quelqu'un qui s'appelle Torquato Aceto qui écrit un court traité intitulé « De l'honnête dissimulation ».
De la dissimulation honnête.
Et qui a cette phrase très étonnante. Il dit de la dissimulation, c'est le repos accordé à la vérité. Quitte oui. à ce que la vérité soit montrée à son heure. Mais il y a un moment où il faut... où il est nécessaire de mettre la vérité au repos.
Et oui, parce qu'on se tue au nom de la vérité, c'est vrai, on s'entretue au nom de la vérité, au nom des vérités religieuses, au nom des vérités politiques, mais il est vrai, vous voyez, je dis il est vrai. Mais Torquato Aceto, je me rappelle aussi, dit « pas de jour sans dissimulation ». Ça permet de vivre.
Balthasar Gracian.
Des calembours, des labyrinthes ou des emblèmes, glaciales et laborieuses bagatelles, telle était pour ce jésuite la poésie qu'il réduisait à de simples stratagèmes. En son âme, point de musique, seul un vain ramassis de métaphores et d'arguties,
la vénération des astres et le dédain de tout ce qui est humain
ou surhumain. Il ne vit pas Homère et son antique voix, ni la tienne d'argent ou de lune, ô Virgile. Il ne vit point l'atroce Édipe qui s'exile, ni le Christ se mourant sur un morceau de bois. Galinacée de la céleste basse-cour, tel fut l'immonde nom qu'il prétendit donner aux claires constellations orientales
qui vont se consumant, à
l'approche du jour. Obnubilé par ses infimes thèmes, il ne vit point la gloire. Il continue à retourner dans sa mémoire
des labyrinthes, des calembours, des emblèmes. Borges.
Quel écrivain est-il ?
C'est un écrivain extraordinairement précis, soigneux, qui travaille énormément ses textes. On peut le voir, par exemple, en comparant les deux versions de même ce texte qui est moins écrit en apparence, mais qui l'est énormément, l'arte d'ingénio. On peut comparer les deux versions, on voit qu'il réfléchissait à chaque mot. Tout est absolument extrêmement pensé. C'est un peu, il y a un peu du ciselage. Et sinon, en même temps qu'il sculpte chaque phrase, en retirant en particulier tout ce dont on peut se passer. Hein, il y a vraiment une écriture de la concision, du laconisme. Donc, il faut évidemment le lire lentement et il faut le lire en pensant. C'est une écriture qui est, par laquelle on ne peut pas se laisser bercer. Bien que, bon, il y a quand même un rythme, il y a quand même un sens. Borges disait qu'il n'était pas musicien, peut-être pas, mais il y a quand même un sens de la formule extraordinaire, même au sens musical, même au sens du rythme de la parole. Et de la... c'est très beau souvent, mais en même temps qu'il fait tout ça, donc il est très très que c'est un écrivain qui travaille énormément ses textes et qui ne se laisse jamais aller. Il y a tout de même une énorme créativité. Il laisse quand même la bride à la créativité, en particulier à des mots nouveaux, à des néologismes ou des mots qui, sans être nouveaux, sont employés dans un sens extrêmement idiolectal. Extrêmement précis. Donc il faut entrer dans son monde, entrer dans ses textes, le traduire. J'admire énormément les traducteurs, et Benito Pellegrin en particulier, parce que moi je n'oserais pas, enfin ça me paraît d'une difficulté énorme, parce que il a une langue qui lui est propre. En cela, il est grand écrivain aussi au sens moderne. Quand on parle de la langue de Proust ou de la langue de Joyce, on peut parler de la langue de Graciano. C'est une variante de l'espagnol qui est signé, qui porte tout le temps la signature de l'individu en question.
Aux complications de la forme s'ajoute la complication conceptuelle. Mais je me suis toujours mu dans cette œuvre-là depuis mes études, et parce que j'étais un peu irrité des vieilles traductions, irrité, quand je dis irrité, par rapport au texte. Mais je rends hommage, bien sûr, à Melot de la Housset au XVIIe siècle, qui a traduit Graziano en utilisant l'édition italienne vénitienne lorsqu'il était ambassadeur à Venise. Et c'était une vision très intéressante du point de vue historique et linguistique française, où, j'en reviens encore à ce contexte historique, malheureusement, on ne peut pas y échapper, dans la mesure où l'éclipse politique de l'Espagne en Europe marque aussi l'éclipse culturelle. L'Espagne, quand même, avec l'Italie, et les trois quarts de l'Italie étaient espagnoles, c'était la norme culturelle. Et à partir de, justement, du traité des Pyrénées, ces années-là, où en France instaure ce petit épisode qu'on appelle abusivement classicisme, mais qui ne résiste pas au mouvement qu'on appelle aujourd'hui baroque, qui est européen, mais quand même il y a une affirmation d'une nation, je dirais pas émergente, mais quand même une nation qui affirme sa puissance, qui affirme contre l'Empire espagnol, qui assiège quand même au nord par les Flandres, au sud par l'Italie et l'Autriche, et par les Alpes et par les Pyrénées, qui assiège la France. Donc la France se forge une identité culturelle de plus en plus grande et linguistique, en rejetant, il est vrai, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons baroque.
Et donc, ça a donné des traductions de Graciano, voilà. Nivelées, aplaties, enfin...
Oui,
qu'est-ce qu'on a fait de ce style tellement complexe?
Il y a la fascination de Graciano, mais on ne peut plus comprendre. Ce sont des jeux de mots, des jeux de sons, des jeux de sens, des allitérations, des rimes perpétuelles, et on ne comprend plus ça. C'est fini. Et le père Bourg est fasciné par Graciano, qui était le père Bourg qui est jésuite, mais donc Racine lui demandait, donnait même ses tragédies à corriger. Le père Bourg ne comprend pas, il n'a pas l'esprit poétique, hein. Pour lui, les muses seraient des muses muselées. Le père Bourg dit, on ne comprend pas ce qu'il dit, il ne le comprend pas sûrement lui-même. Un peu exagéré. Donc, Amelot de la Housset dit, j'ai essayé ici de prouver que Graciano était compréhensible. Bon, une espèce d'aplatissement. Donc, on gomme les images. Bon, on passe sur les contresens, hein, qui ne feraient pas de contresens avec la science. C'est très difficile, ça. On va pas faire un procès là-dessus. Mais toutes les images, tous les jeux de son, tous les jeux de sens sont complètement aplatis. Je peux vous donner des exemples. Alinces del ingenio, ribia de interioridad. C'est pratiquement une phrase toujours, souvent, nominale, où il supprime les verbes, il supprime tout ce qui est coordination, c'est très aphoristique. Et il oppose le lynx et image à la sèche, la sépia, le mot savant, qui s'entoure d'encre face à l'œil de lynx qui cherche à percer. C'est le jeu du masque et de celui qui se déguise. Donc, il y a quelque chose ici d'aphoristique. Et alors, Amelot dit, donc littéralement, hein, à ceux qui cherchent à scruter tes paroles, oppose une haie de broussailles, etc., quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus long. Il y a toujours des verbes qui sont rajoutés. Moi, j'ai cru pouvoir traduire à œil de lynx, sépia et demi, pour rendre dans le côté pratiquement proverbial.
Et presque là aussi, on retrouve quelque chose qui serait de l'ordre de l'art de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut frapper de façon rapide, il faut être bref et efficace.
Exactement, c'est le culte de l'efficacité et cette dissimulation qui est même dans les mots. Si ne risque casto, c'est cauto. Donc, les deux mots, la paranomase qui a été honnie pratiquement par les précepteurs de ce classicisme français qui est passionnant, mais c'est très intéressant à voir mentalement ce que la suppose. Bien sûr, il y a quelque chose de généreux, le jeu de mots le jeu de sens, les allitérations perturbent l'intellection du sens. Et il faut que tout le monde, on rêve en France, il y a un rêve qui est merveilleux, si l'on veut, de langue universelle, parce qu'elle serait transparente. On sait bien que ça n'est pas le cas. Donc, on a peur d'être trompé sur une langue à parité stable, comme la monnaie. Eh bien, là, c'est exactement pareil. Gerson dit, si no eres casto, c'est cauto.
Évidemment, si tu n'es pas chaste, sois prudent.
Oui, sois prudent. Alors, évidemment, mais voyez, un phonème change, le masque tombe et le mot devient autre. Alors moi, je traduis par « Et si tu es lubrique, ne sois pas rubrique. »
En el cuerpo, hambre. Le corps souffre faim, frío, soif, calor, froid.
C'est avec habileté, sinon tromperie, que la nature en a usé avec l'homme pour le faire entrer dans ce monde, car elle machina de l'y jeter sans aucune espèce de connaissance afin de prévenir toute objection. Il arrive dans l'obscurité et même à l'aveuglette, il commence à vivre sans sentir qu'il vit et sans savoir ce qu'est la vie. Il devient un petit enfant et si puéril que la moindre babiole l'apaise s'il pleure et qu'un jouet suffit à son bonheur. La nature semble l'introduire dans un jardin de délices, mais ce n'est qu'un bagne de douleur et de larmes, de sorte que, lorsqu'il ouvre enfin les yeux de l'âme, découvrant trop tard le piège, il se trouve engagé sans retour et se voit plongé dans la fange dont il fut formé. Dès lors, que peut-il faire sinon patauger, tâchant de s'en tirer du mieux qu'il pourra? Chagrin, tristesse, peur, colère, désespoir. Et tout cela pour, au bout du compte, finir condamné à une misérable mort et tout perdre, maison, bien, dignité, amis, frères, parents et cette vie même au moment où elle nous était le plus chère.
Nous sommes en 1651. Beaucoup de choses ont passé, évolué. Et il y a c'est une œuvre de fiction, c'est un roman. Le reste, c'était des traités. Donc, il y a aussi un genre. Et Gracián, quel que soit le genre qu'il ait pratiqué, on sent l'orgueil, la volonté d'avoir essayé de faire au mieux, de faire quelque chose de marquant dans n'importe lequel des genres qu'il a tenté d'illustrer. Et finalement, traité construction-déconstruction, c'est vrai que Criticon, c'est une somme de critiques. comme Heptameron, de Comte, de Cameron, etc. C'est dans cette filiation. Néanmoins, il y a dans cette chronologie que vous avez dite, et cette évolution historique, et puis de la vie de Gratian lui-même, c'est sûr qu'il n'avait plus rien espéré il n'est plus jeune à l'époque, donc il a 50 ans. Ses espoirs de promotion sociale n'ont pas abouti. L'Espagne s'enfonce dans le marasme, il sent très bien. Il y a quelque chose de cela qui passe à travers le Criticon. Mais avant de dire déconstruction, c'est vrai que le héros s'est éloigné peut-être dans les musées. Marquez, c'est aussi un peu l'époque en France. La Rochefoucauld qui utilise beaucoup Gratian, tout de même, c'est une façon de dégonfler les baudruches d'orgueil aristocratique des frondeurs dont lui-même a fait partie. C'est l'aristocratie qui est domestiquée dans la cour ou basse cour de Versailles, c'est volatile, plein d'un panaché de plumes, mais qui ne peut plus que parader, et plus dans la cour que dans les champs de bataille. L'Espagne vit cela de façon encore plus aiguë, puisque elle perd sur tous les terrains politiques et historiques, elle se rétrécit et éclate sur les marges. Le Portugal s'est soulevé et ne rentrera jamais plus dans le giron de l'Espagne. Naples s'est soulevé, il restera encore un siècle espagnol, mais on sent que c'est provisoire. L'Aragon s'est soulevé, l'Andalousie s'est soulevée, les Flandres sont en perpétuelle rébellion. C'est-à-dire, l'Espagne semble éclater sur ses marges. Les colonies américaines sont toujours aussi en état de rébellion latente ou sporadique. Et il y a quelque chose d'un éclatement. Et peut-être sent-on, évidemment, nous posons rétrospectivement sur l'œuvre un contexte, mais un contexte qui est quand même senti de façon très aiguë par Gratian, parce qu'il y a ses lettres et il y a ce qu'il dit. Et le héros peut-être n'est plus qu'une pièce de musée. Et c'est sûr qu'il n'abandonne pas l'idée de héros, mais il y a une notion beaucoup plus importante qu'on pourrait trouver de ce que vous avez dit du discreto, ne s'adresse plus aux grands personnages, mais à l'homme plus commun tout de même. Et ici, c'est le dépassement du héros par la personne. Un dépassement moral, la personne serait pour moi le perfectionnement moral du héros. Ça devient l'idéal. Et la personne, c'est, avec un grand P, c'est ce que nous cherchons. Alors que personne, c'est aussi quelque chose de théâtral, hein, puisque on n'oublie pas que persona, en latin, c'était le masque que portaient les acteurs. Donc la personne, c'est plus le personnage, dirais-je, pour distinguer les deux, c'est ce que nous aspirons, plus ou moins, lorsqu'on vit dans la culture, qui fait que finalement, c'est notre humanité passe par la culture, la barbarie nous assiège de tous côtés. On apprend tous les jours, on se perfectionne sans arrêt, et le temps dont on sent aussi l'acuité terrible chez Gratian, le temps qui passe, l'automne qui arrive, le roman est divisé en quatre saisons de la vie, le temps inéluctable qui détruit tout, mais il nous détruit, hélas, extérieurement, mais si on sait tirer des fruits de l'expérience pragmatique, nous enrichit intérieurement.
Faites-vous miel et les mouches vous mangent. La fermeté du cœur passe celle du corps. Elle est comme l'épée qu'on doit toujours avoir gainée dans la sagesse, mais prête à l'occasion. L'épée prête à l'emploi inspire le respect. La faiblesse du cœur est plus dangereuse que celle du corps. Avec d'éminentes qualités, certains, faute de ce courage, sont morts sans vraiment vivre et finirent enterrés au fond de leur mollesse. Ce n'est pas sans raison que la droite nature au miel joignit le dard chez l'abeille. Il y a dans le corps des nerfs et des os, que l'âme ne soit pas entièrement molle.
Une vie, une œuvre, Balthazar Gratian, 1601-1658. Benito Pellegrini, Mercedes Blanco, Alonso Tordesillas et la voix de Vladimir Jankélévitch. texte lu par Laura Diez del Corral, Bernard Gabet, Balthazar Gracian, traité politique, esthétique et éthique, traduction, préface et notes de Benito Pellegrin, publié au Seuil. Prise de son, Sandrine Bréchaud, Olivier Dupré, Axel Brizard. Mixage, Jean-François Néolier. Une émission de Francesca Isidori et François Connac.